10 avril. À peine couché, je sentis que je ne dormirais pas, et je demeurai sur le dos, les yeux fermés, la pensée en éveil, les nerfs vibrants. Aucun mouvement, aucun son proche ou lointain, seule la respiration des deux marins traversait la mince cloison de bois. Soudain, quelque chose grinça. Quoi ? Je ne sais. Une poulie dans la mâture, sans doute. Mais le ton si doux, si douloureux, si plaintif de ce bruit fit tressaillir toute ma chair. Puis rien, un silence infini allant de la terre aux étoiles. Rien, pas un souffle, pas un frisson de l'eau, ni une vibration du yacht. Rien, puis tout à coup, l'inconnaissable et si grêle gémissement recommença. Il me sembla, en l'entendant, qu'une lame ébréchée sciait mon cœur. Comme certains bruits, certaines notes, certaines voix nous déchirent, nous jettent en une seconde dans l'âme tout ce qu'elle peut contenir de douleur, d'affolement et d'angoisse. J'écoutais, attendant, et je l'entendis encore, ce bruit qui semblait sorti de moi-même, arraché à mes nerfs, ou plutôt qui résonnait en moi comme un appel intime, profond et désolé. Oui, c'était une voix cruelle, une voix connue, attendue, et qui me désespérait. Il passait sur moi ce son faible et bizarre, comme un semeur d'épouvante et de délire, car il eut aussitôt la puissance d'éveiller l'affreuse détresse sommeillant toujours au fond du cœur de tous les vivants. Qu'était-ce ? C'était la voix qui crie sans cesse dans notre âme et qui nous reproche d'une façon continue, obscurément et douloureusement, torturante, harcelante, inconnue, inapaisable, inoubliable, féroce, qui nous reproche tout ce que nous avons fait et en même temps tout ce que nous n'avons pas fait, la voix des vagues remords, des regrets sans retour, des jours finis, des femmes rencontrées qui nous auraient aimés peut-être, des choses disparues, des joies vaines, des espérances mortes. La voix de ce qui passe, de ce qui fuit, de ce qui trompe, de ce qui disparaît, de ce que nous n'avons pas atteint, de ce que nous n'atteindrons jamais. La maigre petite voix qui crie l'avortement de la vie, l'inutilité de l'effort, l'impuissance de l'esprit et la faiblesse de la chair. Elle me disait, dans ce court murmure, toujours recommençant après les mornes silences de la nuit profonde, elle me disait tout ce que j'aurais aimé, tout ce que j'avais confusément désiré, attendu, rêvé, tout ce que j'aurais voulu voir, comprendre, savoir, goûter, tout ce que mon insatiable et pauvre et faible esprit avait effleuré d'un espoir inutile, tout ce vers quoi il avait tenté de s'envoler, sans pouvoir briser la chaîne d'ignorance qui le tenait. Ah, j'ai tout convoité, sans jouir de rien. Il m'aurait fallu la vitalité d'une race entière, l'intelligence diverse éparpillée sur tous les êtres, toutes les facultés, toutes les forces, et mille existences en réserve, car je porte en moi tous les appétits et toutes les curiosités, et je suis réduit à tout regarder sans rien saisir. Pourquoi donc cette souffrance de vivre, alors que la plupart des hommes n'en éprouvent que la satisfaction? Pourquoi cette torture inconnue qui me ronge? Pourquoi ne pas connaître la réalité des plaisirs, des attentes et des jouissances? C'est que je porte en moi cette seconde vue qui est en même temps la force et toute la misère des écrivains. J'écris parce que je comprends, et je souffre de tout ce qui est parce que je le connais trop, et surtout parce que, sans le pouvoir goûter, je le regarde en moi-même, dans le miroir de ma pensée. Qu'on ne nous envie pas, mais qu'on nous plaigne, car voici en quoi l'homme de l'être diffère de ses semblables. En lui, aucun sentiment simple n'existe plus. Tout ce qu'il voit, ses joies, ses plaisirs, ses souffrances, ses désespoirs, deviennent instantanément des sujets d'observation. Il analyse malgré tout, malgré lui, sans fin, les cœurs, les visages, les gestes, les intonations. Et sitôt qu'il a vu, quoi qu'il ait vu, il lui faut le pourquoi. Il n'a pas un élan, pas un cri, pas un baiser qui soit franc, pas une de ces actions instantanées qu'on fait parce qu'on doit les faire, sans savoir, sans réfléchir, sans comprendre, sans se rendre compte ensuite. S'il souffre, il prend note de sa souffrance et la classe dans sa mémoire. Il se dit, en revenant du cimetière, où il a laissé celui ou celle qu'il aimait le plus au monde, « C'est singulier ce que j'ai ressenti. C'était comme une ivresse douloureuse, etc. » Et alors, il se rappelle tous les détails, les attitudes des voisins, les gestes faux, les fausses douleurs, les faux visages et mille petites choses insignifiantes, des observations artistiques, le signe de croix d'une vieille qui tenait un enfant par la main, un rayon de lumière dans une fenêtre, un chien qui traversa le convoi, l'effet de la voiture funèbre sous les grands ifs du cimetière, la tête du croque-mort et la contraction des traits, l'effort des quatre hommes qui descendaient la bière dans la fosse, mille choses enfin qu'un brave homme souffrant de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force, n'aurait jamais remarqué. Il semble avoir deux âmes, l'une qui note, explique, commente chaque sensation de sa voisine, de l'âme naturelle, commune à tous les hommes. Et il vit condamné à être toujours, en toute occasion, un reflet de lui-même et un reflet des autres, condamné à se regarder sentir, agir, aimer, penser, souffrir, et à ne jamais souffrir, penser, aimer, sentir comme tout le monde, bonnement, franchement, simplement, sans s'analyser soi-même après chaque joie et après chaque sanglot. S'il cause, sa parole semble souvent médisante, uniquement parce que sa pensée est clairvoyante et qu'il désarticule tous les ressorts cachés des sentiments et des actions des autres. S'il écrit, il ne peut s'abstenir de jeter en ses livres tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il sait, et cela sans exception pour les parents, les amis, mettant à nu avec une impartialité cruelle les cœurs de ceux qu'il aime ou qu'il a aimés, exagérant même, pour grossir les faits, uniquement préoccupé de son œuvre et nullement de ses affections. Et s'il aime une femme, il la dissèque comme un cadavre dans un hôpital. Tout ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, est instantanément pesé dans cette délicate balance de l'observation qu'il porte en lui et classé à sa valeur documentaire. qu'elle se jette à son cou dans un élan irréfléchi, il jugera le mouvement en raison de son opportunité, de sa justesse, de sa puissance dramatique, et le condamnera tacitement s'il le sent faux ou mal fait. Acteur et spectateur de lui-même et des autres, il n'est jamais acteur seulement comme les bonnes gens qui vivent sans malice. Tout autour de lui devient de verre, les cœurs, les actes, les intentions secrètes, et il souffre d'un mal étrange, d'une sorte de dédoublement de l'esprit qui fait de lui un être effroyablement vibrant, machiné, compliqué et fatigant pour lui-même. Sa sensibilité particulière et maladive le change en outre en écorché vif, pour qui presque toutes les sensations sont devenues des douleurs. Je me rappelle les jours noirs où mon cœur fut tellement déchiré par des choses aperçues une seconde, que les souvenirs de ces visions demeurent en moi comme des plaies. Un matin, avenue de l'Opéra, au milieu du public remuant et joyeux que le soleil de mai grisait, j'ai vu passer soudain un être innommable. Une vieille courbée en deux, vêtue de loques qui furent des robes, coiffée d'un chapeau de paille noire, tout dépouillé de ses ornements anciens, rubans et fleurs disparus depuis des temps indéfinis. Et elle allait, traînant ses pieds si péniblement, que je ressentais au cœur, autant qu'elle-même, plus qu'elle-même, la douleur de tous ses pas. Deux cannes la soutenaient. Elle passait sans voir personne, indifférente à tout, au bruit, aux gens, aux voitures, au soleil. Où allait-elle? Vers quel taudis? Elle portait dans un panier qui pendait au bout d'une ficelle quelque chose. Quoi ? Du pain ? Oui, sans doute. Personne, aucun voisin n'ayant pu ou voulu faire pour elle cette course, elle avait entrepris, elle, ce voyage horrible, de sa mansarde au boulanger. 2 heures de route au moins pour aller et venir. Et quelle route douloureuse ! Quel chemin de la croix plus effroyable que celui du Christ ! Je levai les yeux vers les toits des maisons immenses. Elle allait là-haut. Quand y serait-elle ? Combien de repos haletants sur les marches, dans le petit escalier noir et tortueux ! Tout le monde se retournait pour la regarder. On murmurait : pauvre femme ! Puis on passait. Sa jupe, son haillon de jupe, traînait sur le trottoir, à peine attaché sur son débris de corps. Et il y avait une pensée là-dedans. Une pensée ? Non, mais une souffrance épouvantable, incessante, harcelante. Oh, la misère des vieux sans pain, des vieux sans espoir. Sans enfants, sans argent, sans rien autre chose que la mort devant eux. Y pensons-nous. Y pensons-nous aux vieux affamés des mansardes. Pensons-nous aux larmes de ces yeux ternes qui furent brillants, émus et joyeux jadis. Une autre fois, il pleuvait, j'allais seul, chassant par la plaine normande, par les grands labourés de bougrasse qui fondaient et glissaient sous mon pied. De temps en temps, une perdrix surprise, blottie contre une motte de terre, s'envolait lourdement sous l'averse. Mon coup de fusil, éteint par la nappe d'eau qui tombait du ciel, claquait à peine comme un coup de fouet, et la bête grise s'abattait avec du sang sur ses plumes. Je me sentais triste à pleurer, à pleurer comme les nuages qui pleuraient sur le monde et sur moi, trempés de tristesse jusqu'au cœur, accablés de lassitude à ne plus lever mes jambes engluées d'argile. Et j'allais rentrer quand j'aperçus au milieu des champs le cabriolet du médecin qui suivait un chemin de traverse. Elle passait, la voiture noire et basse, couverte de sa capote ronde et traînée par son cheval brun, comme un présage de mort errant dans la campagne par ce jour sinistre. Tout à coup, elle s'arrêta. La tête du médecin apparut et il cria
« Hé !»
J'allai vers lui, il me dit « Voulez-vous m'aider à soigner une diphtérique ? Je suis seul et il faudrait la tenir pendant que j'enlèverai les fausses membranes de sa gorge. « Je viens avec vous, » répondis-je, et je montai dans sa voiture. Il me raconta ceci. L'angine, l'affreuse angine qui étrangle les misérables hommes, avait pénétré dans la ferme des Martinets, de pauvres gens. Le père et le fils étaient morts au commencement de la semaine. La mère et la fille s'en allaient aussi maintenant. Une voisine qui les soignait, se sentant soudain indisposée, avait pris la fuite la veille même, laissant ouverte la porte et les deux malades abandonnés sur leur grabat de paille, sans rien à boire, seuls, râlant, suffoquant, agonisant, seuls depuis 24 heures. Le médecin venait de nettoyer la gorge de la mère et l'avait fait boire. Mais l'enfant, affolé par la douleur et par l'angoisse des suffocations, avait enfoncé et caché sa tête dans la paillasse sans consentir à se laisser toucher. Le médecin, accoutumé à ses misères, répétait d'une voix triste et résignée. « Je ne peux pourtant point passer mes journées chez mes malades. Christi, celle-là serre le cœur. Quand on pense qu'elles sont restées 24 heures sans boire, le vent chassait la pluie jusqu'à leur couche, toutes les poules s'étaient mises à l'abri dans la cheminée. Nous arrivions à la ferme. Il attacha son cheval à la branche d'un pommier devant la porte et nous entrâmes. Une odeur forte de maladie et d'humidité, de fièvre et de moisissure, d'hôpital et de cave nous saisit à la gorge. Il faisait froid, un froid de marécage dans cette maison sans feu, sans vie, grise et sinistre. L'horloge était arrêtée. La pluie tombait par la grande cheminée dont les poules avaient éparpillé la cendre, et on entendait dans un coin sombre un bruit de soufflet rauque et rapide. C'était l'enfant qui respirait. La mère, étendue dans une sorte de grande caisse de bois, le lit des paysans, et cachée par de vieilles couvertures et de vieilles hardes, semblait tranquille. Elle tourna un peu la tête vers nous. Le médecin lui demanda « Avez-vous une chandelle ?» Elle répondit d'une voix basse, accablée « Dans le buffet !» Il prit la lumière et m'emmena au fond de l'appartement vers la couchette de la petite fille. Elle haletait, les joues décharnées, les yeux luisants, les cheveux mêlés, effrayante. Dans son cou maigre et tendu, des creux profonds se formaient à chaque aspiration. Allongée sur le dos, elle serrait de ses deux mains les loques qui la couvraient. Et dès qu'elle nous vit, elle se tourna sur la face pour se cacher dans la paillasse. Je la pris par les épaules, et le docteur, la forçant à montrer sa gorge, on arracha une grande peau blanchâtre qui me parut sèche comme un cuir. Elle respira mieux tout de suite et but un peu. La mère, soulevée sur un coude, nous regardait. Elle balbutia. « C'est-il fait ?»«
Oui, c'est fait. »«
J'allons-y rester toute seule ?»
Une peur affreuse, faisait frémir sa voix, peur de cet isolement, de cet abandon, des ténèbres et de la mort qu'elle sentait si proche. Je répondis, « Non, ma brave femme, j'attendrai que le docteur vous ait envoyé la garde. » Et, me tournant vers le médecin, Envoyez-lui la mère Mauduit. Je la paierai.
Parfait, je vous l'envoie tout de suite.
Il me serra la main, sortit, et j'entendis son cabriolet qui s'en allait sur la route humide. Je restai seul avec les deux mourantes. Mon chien Paf s'était couché devant la cheminée noire, et il me fit songer qu'un peu de feu serait utile à nous tous. Je ressortis donc pour chercher du bois et de la paille, et bientôt une grande flambée éclaira jusqu'au fond de la pièce le lit de la petite qui recommençait à haleter. Et je m'assis, tendant mes jambes vers le foyer. La pluie battait les vitres, le vent secouait le toit. J'entendais l'haleine courte, dure, sifflante des deux femmes, et le souffle de mon chien qui soupirait de plaisir roulait devant l'âtre clair. La vie, la vie, qu'est-ce que cela? Ces deux misérables qui avaient toujours dormi sur la paille, mangé du pain noir, travaillé comme des bêtes, souffert toutes les misères de la terre, allaient mourir. Qu'avait-elle fait? Le père était mort, le fils était mort. Ces gueux passaient pourtant pour de bonnes gens qu'on aimait et qu'on estimait, de simples et honnêtes gens. Je regardai fumer mes bottes et dormir mon chien, et en moi entra soudain une joie sensuelle et honteuse en comparant mon sort à celui de ces forçats. La petite fille se mit à râler, et tout à coup, ce souffle rauque me devint intolérable. Il me déchirait comme une pointe dont chaque coup m'entrait au cœur. J'allai vers elle. « Veux-tu boire ?» lui dis-je. Elle remua la tête pour dire oui, et je lui versai dans la bouche un peu d'eau qui ne passa point. La mère, restée plus calme, s'était retournée pour regarder son enfant. Et voilà que soudain une peur me frôla, une peur sinistre qui me glissa sur la peau comme le contact d'un monstre invisible. Où étais-je? Je ne le savais plus. Est-ce que je rêvais? Quel cauchemar m'avait saisi? Était-ce vrai que des choses pareilles arrivaient, qu'on mourait ainsi? Et je regardais dans les coins sombres de la chaumière, comme si je m'étais attendu à voir, blotti dans un angle obscur, une forme hideuse, innommable, effrayante, celle qui guette la vie des hommes et les tue, les ronge, les écrase, les étrangle, qui aime le sang rouge, les yeux allumés par la fièvre, les rides et les flétrissures, les cheveux blancs et les décompositions. Le feu s'éteignait. J'y jetai du bois et je m'y chauffai le dos, tant j'avais froid dans les reins. Au moins, j'espérais mourir dans une bonne chambre, moi, avec des médecins autour de mon lit et des remèdes sur les tables. Et ces femmes étaient restées seules 24 heures dans cette cabane sans feu, râlant sur de la paille. J'entendis soudain le trot d'un cheval et le roulement d'une voiture, et la garde entra, tranquille, contente d'avoir trouvé de la besogne, sans étonnement devant cette misère. Je lui laissai quelque argent et je me sauvai avec mon chien. Je me sauvai comme un malfaiteur, courant sous la pluie, croyant entendre toujours le sifflement des deux gorges, courant vers ma maison chaude où m'attendaient mes domestiques en préparant un bon dîner. Mais je n'oublierai jamais cela, et tant d'autres choses encore qui me font haïr la terre. Comme je voudrais, parfois, ne plus penser, ne plus sentir. Je voudrais vivre comme une brute, dans un pays clair et chaud, dans un pays jaune, sans verdure brutale et crue, dans un de ces pays d'Orient où l'on s'endort sans tristesse, où l'on s'éveille sans chagrin, où l'on s'agite sans souci, où l'on sait aimer sans angoisse, où l'on se sent à peine exister. J'y habiterai une demeure vaste et carrée, comme une immense caisse éclatante au soleil. De la terrasse, on voit la mer, où passent ces voiles blanches en forme d'ailes pointues des bateaux grecs ou musulmans. Les murs du dehors sont presque sans ouverture. Un grand jardin, où l'air est lourd sous le parasol des palmiers, forme le milieu de ce logis oriental. Un jet d'eau monte sous les arbres et s'émiette en retombant dans un large bassin de marbre dont le fond est sablé de poudre d'or. Je m'y baignerai à tout moment, entre deux pipes, deux rêves ou deux baisers. J'aurai des esclaves noirs et beaux, drapés en des étoffes légères et courant vite, nu-pieds sur les tapis sourds. Mes murs seraient moelleux et rebondissants comme des poitrines de femmes, et sur mes divans en cercle autour de chaque appartement, toutes les formes des coussins me permettraient de me coucher dans toutes les postures qu'on peut prendre. Puis, quand je serai là du repos délicieux, là de jouir de l'immobilité et de mon rêve éternel, là du calme plaisir d'être bien, je ferai amener devant ma porte un cheval blanc ou noir, aussi souple qu'une gazelle, et je partirai sur son dos, en buvant l'air qui fouette et grise, l'air sifflant des galops furieux. Et j'irai comme une flèche sur cette terre colorée qui enivre le regard, dont la vue est savoureuse comme un vin. À l'heure calme du soir, j'irai, d'une course affolée vers le large horizon que le soleil couchant teinte en rose. Tout devient rose là-bas, au crépuscule. Les montagnes brûlées, le sable, les vêtements des Arabes, les dromadaires, les chevaux et les tentes. Les flamants roses s'envolent des marées sur le ciel rose. Et je pousserai des cris de délire noyés dans la roseur illimitée du monde. Je ne verrai plus, le long des trottoirs, assourdis par le bruit dur des fiacres sur les pavés, des hommes vêtus de noir, assis sur des chaises incommodes, boire l'absinthe en parlant d'affaires. J'ignorerai le cours de la bourse, les événements politiques, les changements de ministère, toutes les inutiles bêtises où nous gaspillons notre courte et trompeuse existence. Pourquoi ces peines, ces souffrances, ces luttes? Je me reposerai à l'abri du vent dans ma somptueuse et claire demeure. J'aurai 4 ou 5 épouses en des appartements discrets et sourds, 5 épouses venues des 5 parties du monde, et qui m'apporterait la saveur de la beauté féminine épanouie dans toutes les races. Le rêve ailé flottait devant mes yeux fermés, dans mon esprit qui s'apaisait, quand j'entendis que mes hommes s'éveillaient, qu'ils allumaient leur fanal et se mettaient à travailler à une besogne longue et silencieuse. Je leur criai « Que faites-vous donc ?» Raymond répondit d'une voix hésitante. Nous préparons des palangres, parce que nous avons pensé que monsieur serait bien aise de pêcher s'il faisait beau au jour levant. Aguet est en effet, pendant l'été, le rendez-vous de tous les pêcheurs de la côte. On vient là en famille, on couche à l'auberge ou dans les barques, et on mange la bouillabaisse au bord de la mer, à l'ombre des pins dont la résine chaude crépite au soleil. Je demandai.
« Quelle heure est-il ? 3 heures, monsieur. »
Alors, sans me lever, allongeant le bras, j'ouvris la porte qui sépare ma chambre du poste d'équipage. Les deux hommes étaient accroupis dans cette sorte de niche basse que le mât traverse pour venir s'emmancher dans la carlingue, dans cette niche si pleine d'objets divers et bizarres qu'on dirait un repaire de maraudeurs où l'on voit, suspendus en ordre, le long des cloisons, des instruments de toutes sortes, scies, haches, épissoirs, des agrès et des casseroles, puis, sur le sol, entre les deux couchettes, un seau, un fourneau, un baril dont les cercles de cuivre luisent sous le rayon direct du fanal, suspendu entre les bites des ancres à côté des puits de chêne et mes matelots travaillaient à amorcer les innombrables hameçons suspendus le long de la corde des palangres. « À quelle heure faudra-t-il me lever ? » leur dis-je. « Mais tout de suite, monsieur. » Une demi-heure plus tard, nous embarquions tous les trois dans le you-you et nous abandonnions le bel ami pour aller tendre notre filet au pied du Dramon, près de l'île d'Or. Puis, quand notre palangre, longue de 200 à 300 mètres, fut descendue au fond de la mer, on amorça trois petites lignes de fond, et le canot ayant mouillé une pierre au bout d'une corde, nous commençâmes à pêcher. Il faisait jour déjà, et j'apercevais très bien la côte de Saint-Raphaël, auprès des bouches de l'Argens, et les sombres montagnes des Maures, courant jusqu'au cap Camara, là-bas, en pleine mer, au-delà du golfe de Saint-Tropez. De toute la côte du Midi, c'est ce coin que j'aime le plus. Je l'aime comme si j'y étais né, comme si j'y avais grandi, parce qu'il est sauvage et coloré, que le Parisien, l'Anglais, l'Américain, l'homme du monde et le Rastaquouère ne l'ont pas encore empoisonné. Soudain, le fil que je tenais à la main vibra. Je tressaillis, puis rien, puis une secousse légère serra la corde enroulée à mon doigt, puis une autre plus forte remua ma main, et le cœur battant, je me mis à tirer la ligne, doucement, ardemment, plongeant mon regard dans l'eau transparente et bleue, et bientôt j'aperçus, sous l'ombre du bateau, un éclair blanc qui décrivait des courbes rapides. Il me parut énorme ainsi ce poisson, gros comme une sardine, quand il fut à bord. Puis j'en eus d'autres, des bleus, des rouges, des jaunes et des verts, luisants, argentés, tigrés, dorés, mouchetés, tachetés, ces jolis poissons de roche de la Méditerranée, si variés, si colorés, qui semblaient peints pour plaire aux yeux, puis des rascasses hérissées de dards et des murènes, ces monstres hideux. Rien n'est plus amusant que de lever une palangre. Que va-t-il sortir de cette mer ? Quelle surprise, quelle joie ou quelle désillusion à chaque hameçon retiré de l'eau ! Quelle émotion quand on aperçoit, de loin, une grosse bête qui se débat en montant lentement vers nous. À 10 heures, nous étions revenus à bord du yacht, et les deux hommes radieux m'annoncèrent que notre pêche pesait 11 kilos. Mais j'allais payer ma nuit sans sommeil. La migraine, l'horrible mal, la migraine qui torture comme aucun supplice ne l'a pu faire, qui broie la tête, rend fou, égare les idées, disperse la mémoire ainsi qu'une poussière au vent, la migraine m'avait saisi et je dus m'étendre dans ma couchette un flacon d'éther sous les narines. Au bout de quelques minutes, je crus entendre un murmure vague qui devint bientôt une espèce de bourdonnement et il me semblait que tout l'intérieur de mon corps devenait léger, léger comme de l'air, qu'il se vaporisait. Puis ce fut une sorte de torpeur de l'âme, de bien-être somnolent malgré les douleurs qui persistaient, mais qui cessait cependant d'être pénible. C'était une de ces souffrances qu'on consent à supporter, et non plus ces déchirements affreux contre lesquels tout notre corps torturé proteste. Bientôt, l'étrange et charmante sensation de vide que j'avais dans la poitrine s'étendit, gagna les membres qui devinrent à leur tour légers, légers comme si la chair et les os se furent fondus et que la peau seule fût restée, la peau nécessaire pour me faire percevoir la douceur de vivre, d'être couché dans ce bien-être. Je m'aperçus alors que je ne souffrais plus. La douleur s'en était allée. Fondu aussi, évaporé. Et j'entendis des voix, 4 voix, 2 dialogues sans rien comprendre des paroles. Tantôt ce n'était que des sons indistincts, tantôt un mot me parvenait. Mais je reconnus que c'était là simplement les bourdonnements accentués de mes oreilles. Je ne dormais pas, je veillais, je comprenais, je sentais, je raisonnais avec une netteté, une profondeur, une puissance extraordinaire. et une joie d'esprit, une ivresse étrange venue de ce décuplement de mes facultés mentales. Ce n'était pas du rêve, comme avec du haschich, ce n'était pas les visions un peu maladives de l'opium. C'était une acuité prodigieuse de raisonnement, une manière nouvelle de voir, de juger, d'apprécier les choses et la vie, avec la certitude, la conscience absolue que cette manière était la vraie. Et la vieille image de l'écriture m'est revenue soudain à la pensée. Il me semblait que j'avais goûté à l'arbre de la science, que tous les mystères se dévoilaient, tant je me trouvais sous l'empire d'une logique nouvelle, étrange, irréfutable. Et des arguments, des raisonnements, des preuves me venaient en foule, renversés immédiatement par une preuve, un raisonnement, un argument plus fort. Ma tête était devenue le champ de lutte des idées. J'étais un être supérieur, armé d'une intelligence invincible, et je goûtais une jouissance prodigieuse à la constatation de ma puissance. Cela dura longtemps, longtemps. Je respirais toujours l'orifice de mon flacon d'éther. Soudain, je m'aperçus qu'il était vide. Et la douleur recommença. Pendant 10 heures, je dus endurer ce supplice contre lequel il n'est point de remède. Puis je dormis, et le lendemain, alerte comme après une convalescence, ayant écrit ces quelques pages, je partis pour Saint-Raphaël.